Alors, la dernière fois, je vous ai présenté ce livre, Dire et vouloir dire, de Stanley Cavell. Donc, j'ai pris goût au gros ouvrage de philosophie et je récidive avec le même auteur, Stanley Cavell, cette fois-ci pour Les voies de la raison. Soit on arrive à vivre ensemble, soit on meurt. C'est ce que Stanley Cavell, donc l'auteur de ces livres, a déclaré au micro de Philippe Petit lors d'une émission de France Culture à voix nue. Si on n'arrive pas à vivre ensemble, soit on arrive à vivre ensemble, soit on meurt. Et comment on arrive à vivre ensemble? Eh bien, beaucoup par les échanges, donc par le langage. Le langage dans toutes les situations, c'est ce qu'on va appeler le langage ordinaire, le langage des situations ordinaires. Donc si on arrive à se comprendre, si on ne meurt pas, ben, d'une certaine manière, c'est grâce au langage ordinaire. Et Stanley Cavell fait partie de ces philosophes qu'on appelle les philosophes du langage ordinaire. Donc on va explorer en fait... La philosophie du langage ordinaire, qu'est-ce que c'est? Et principalement à travers le scepticisme, qui est un des thèmes traités par Cavell. Alors, je vais pas m'étendre sur l'auteur. Simplement, il est mort l'année dernière, il y a quasiment un an jour pour jour. C'était le 19 juin 2018. Donc il est originaire d'une famille juive de Géorgie qui, comme beaucoup de familles juives, a fui, a émigré aux États-Unis en 1905 pour fuir les pogroms. La musique était quelque chose de très important dans sa vie. Il dit qu'il aurait pu être musicien, mais il a été philosophe. Et la grande rencontre de sa vie, c'est lorsque, en tout cas de sa vie philosophique, c'est lorsqu'il était étudiant. C'est avoir affaire à John Langshaw Austin. Alors John Austin, on le connaît en France pour son livre Quand dire, c'est faire, avec le concept de l'énoncé performatif. Quand le maire, par exemple, dit « Je vous déclare mari et femme », en même temps qu'il le dit, ça advient. Mais en fait, Austin a fait beaucoup d'autres choses et c'est un des philosophes principaux de la philosophie du langage ordinaire. Et donc là, pour Cavell, ça a été une révélation. Et mis à part Austin, ses influences, c'est Wittgenstein et Emerson. Donc il n'arrête pas de parler de ces philosophes-là. Donc ce livre, Les voies de la raison, sous-titré Wittgenstein, le scepticisme, la moralité et la tragédie. Il est paru au Seuil, donc dans sa traduction française, en 1996. Et le livre original s'appelait The Claim of Reason, lui, date de 1979. Donc en France, on a été un peu long à découvrir Cavell, qui est considéré comme un des philosophes majeurs dans le monde anglo-saxon. Donc ce livre, en fait, c'est plusieurs choses à la fois. C'est une réécriture de sa thèse de doctorat. C'est un livre sur Wittgenstein. C'est un livre sur le scepticisme. Et c'est un livre sur la morale, notamment à travers le rapport qu'on peut avoir entre êtres humains. Alors, le statut du langage dans la philosophie. On peut discerner deux tendances. Soit les philosophes qui considèrent que le langage ordinaire est un moyen d'expression imprécis, et donc pour philosopher, ben, ça nécessite de passer à un niveau d'abstraction supérieur, quoi, donc à se détacher de ce langage ordinaire. Donc ça, c'est la philosophie traditionnelle, donc c'est depuis Platon jusqu'à nos jours, c'est un peu la philosophie occidentale, celle qu'on connaît principalement, en tout cas en France. Ça peut être aussi, je me détache du langage ordinaire et j'étudie en fait les problèmes philosophiques à travers le formalisme de la logique mathématique. Donc ça, c'est plutôt la philosophie analytique, donc qui est dans les pays anglo-saxons. Et la deuxième attitude par rapport au langage ordinaire, qui va être l'attitude des philosophes du langage ordinaire, c'est de considérer que le langage ordinaire est en lui-même porteur de pensées philosophiques sur le monde et sur notre rapport au monde. Alors, pourquoi ? On verra des illustrations, mais l'idée centrale, c'est lorsque j'apprends ma langue maternelle, en même temps, j'apprends le monde. Et donc, ma langue maternelle est chargée de tout mon apprentissage du monde. Et c'est ça que le philosophe du langage ordinaire va essayer de rechercher. Alors, pour citer Cavell, pour résumer, en apprenant le langage, vous n'apprenez pas seulement ce que sont les noms des choses, mais ce que c'est qu'un nom. Pas seulement ce qu'est la forme d'expression convenant à l'expression d'un désir, mais ce que c'est qu'exprimer un désir. Pas seulement ce qu'est le mot pour père, mais ce que c'est qu'un père. Pas seulement le mot amour, mais ce que c'est que l'amour. En apprenant le langage, on n'apprend pas seulement la prononciation des sons et leur ordre grammatical, mais aussi les formes de vie qui font de ces sons les mots qu'ils sont, en état de faire ce qu'ils font, par exemple, nommer, appeler, montrer du doigt, exprimer un désir ou une affection, indiquer un choix ou une aversion, et on pourrait rajouter exprimer ou non, partager un secret, par exemple. Alors, voyons plus particulièrement sur l'exemple du scepticisme. Cavell va citer un certain nombre de postures de la philosophie traditionnelle sceptique par rapport au scepticisme. Donc il va fournir beaucoup d'exemples. Et c'est un livre, en fait, ces livres sont des livres très érudits, c'est-à-dire qu'ils sont bourrés de références. C'est-à-dire, il parle de ces philosophes, je dirais, de cœur, que sont Wittgenstein, Austin et Emerson. Il les commente, il essaie d'éclaircir leurs pensées. Et il parle d'autres philosophes qui ont réfuté ces philosophes-là pour essayer de les réfuter à son tour. Donc, chaque fois que je vais donner un exemple, en fait, c'est un exemple que donne Cavell et c'est un exemple qu'il a tiré dans la littérature philosophique traditionnelle. Alors, le sceptique de la philosophie traditionnelle, par exemple, il prend une situation, il nous dit je rencontre un homme, j'ai l'impression que cet homme est en colère. Mais, nous dit ce sceptique traditionnel, en fait, je ne peux jamais en être sûr, parce que peut-être que cette personne est en train de feindre la colère. Peut-être, en fait, qu'elle ne feint rien, mais qu'elle exprime mal, que c'est pas la colère qu'elle voudrait exprimer, mais en fait, elle l'exprime par la colère. C'est peut-être moi, en fait, qui pense qu'il est en colère, parce que je suis particulièrement susceptible sur ce qu'il dit. Voilà. Donc, le philosophe traditionnel sceptique va partir de cet exemple-là, et il va le généraliser en disant, eh bien, vous voyez, dans toutes les situations, partout, toujours, vous ne pouvez jamais être sûr de rien. Et c'est ça qui interroge Cavell. Alors, avec souvent un certain humour qui transparaît, en disant ça c'est une grande énigme pour moi. Comment ça se fait qu'un philosophe traditionnel qui semble tellement attaché à la raison, au raisonnement, à la logique mathématique, il prend un exemple et il en fait une généralisation, une abstraction. Donc c'est le premier type de réfutation, en tout cas d'interrogation, qu'il donne. Alors, et il dit, par rapport à ces situations-là, de l'homme qui paraît en colère, ou de ce qu'on voit et que est-ce qu'on est sûr de le voir, Cavell nous dit, dans les situations ordinaires, dans le langage ordinaire, nous, qu'est-ce qu'on se dit ? Je suis pas sûr d'avoir bien vu ça, par exemple, parce que j'ai pas pris mes lunettes. Ou alors, il y avait du brouillard. Alors, je dis, hier, j'ai cru te croiser dans la rue, mais comme tu étais un peu loin, j'ai vu que ta silhouette, voilà, je ne suis pas sûr de t'avoir vu. Alors, au début, on se dit, mais c'est quoi cette philosophie, quoi ? Enfin, c'est trivial et c'est justement le reproche que va faire la philosophie traditionnelle. Elle va dire, bah, vous dites en fait des banalités, vous restez au ras des pâquerettes. Mais on se rend compte, alors au début c'est un peu dur à la lecture, on se dit mais pourquoi il donne tous ces exemples comme ça de situations ordinaires, mais petit à petit en fait on comprend que, je dirais en résumant, c'est que il prend au sérieux en fait le langage ordinaire et les situations du langage ordinaire. Et on va voir qu'en fait on peut en déduire des choses qui sont très profondes. Autre exemple qu'il prend, un philosophe du traditionnel, sceptique, qui, lors d'une conférence, qui montre une enveloppe à son public en disant « Est-ce que vous voyez cette enveloppe ?» Alors, tout le monde dit « Oui, je le vois ». Il dit « Mais en fait, non, vous ne la voyez pas. Vous voyez le devant de cette enveloppe. Mais par exemple, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Vous ne voyez pas le contenu de cette enveloppe. » Alors, par rapport à ça, Cavell a plusieurs réflexions. Tout d'abord, il dit ce que sous-entend le philosophe traditionnel, c'est que quand on voit quelque chose, en fait, il y a des choses de cachées qui existent, mais qu'on ne voit pas. Donc, qui est quand même une supposition qui n'est pas évidente à avaler. Et ça, ça a donné... par exemple, Platon, avec le monde des idées, où il va nous dire, cette table-là, en fait, oui, elle est réelle. Mais ce qui est encore plus réel que cette table-là, c'est l'idée de cette table. Donc, voilà. Donc, première chose, en fait, qui est un peu esquivée par le philosophe traditionnel, c'est cette idée qu'on présuppose, en fait, que dans tout ce qu'on voit, on n'en voit qu'une partie, quoi. On ne voit pas le tout. Deuxième chose, il nous dit, en fait, quand il vous dit « Est-ce que vous voyez cette enveloppe ?», c'est pas la question qu'il vous pose, c'est pas la vraie question qu'il vous pose. En fait, il vous dit « Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une enveloppe ?» quoi, ou « Est-ce que vous savez ce que c'est que cette enveloppe ?» Or, Cavell répond « Dans le langage ordinaire, lorsque je dis « oui, je vois cet objet », je ne prétends pas dire, je ne veux pas dire « oui, je connais cet objet ». Et là, en fait, c'est quelque chose de très profond, ça touche à notre rapport au monde. Il dit que dans la philosophie traditionnelle, en fait, le rapport qu'on a au monde, qu'on présente au monde, aux objets, à tout ce qu'on voit, c'est un rapport de connaissance. Alors qu'en fait, ce n'est pas notre vrai rapport. Notre rapport réel au monde n'est pas un rapport de connaissance. C'est pas ça qui est en jeu en fait dans notre être au monde. Donc ce qui est quand même assez fort et assez profond, quoi. Cavell, du coup, il fait le reproche, en fait, aux philosophes, à la philosophie traditionnelle, d'être complètement déconnecté de l'humain. Il dit, s'il fallait faire une histoire de la philosophie traditionnelle, la philosophie traditionnelle, on verrait que la philosophie traditionnelle s'est concentrée sur la signification des mots et des phrases particuliers ou particulières en les examinant isolément, hors de toute attention systématique portée à leur usage concret, hors des jeux de langage, qui est un thème qu'on retrouve beaucoup notamment chez Wittgenstein, cette idée de jeu de langage. Et Cavell nous dit, cette histoire de la philosophie traditionnelle, on pourrait l'appeler de la philosophie et du rejet de l'humain. Alors, à partir de là, Cavell s'interroge beaucoup sur le scepticisme. Il dit, ben, ça suffit pas de rejeter à la face du philosophe traditionnel des arguments en lui disant tu dis n'importe quoi, et lui en retour il nous dit mais toi tu dis aussi n'importe quoi, et chacun se dit vous, toi tu dis n'importe quoi par rapport à ma manière de penser à moi. Il dit qu'avec le scepticisme, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et lui, il le voit par rapport au langage où sa grande interrogation, alors là, c'est qui traverse son œuvre du début jusqu'à la fin. Alors je dis ça comme si j'avais tout lu, mais en fait, c'est quand même ce qui ressort de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai lu. C'est de dire que ce qui est extraordinaire dans le langage ordinaire, dans le langage maternel, c'est que on arrive à se comprendre avec par rapport au langage ordinaire. Sinon, on vivrait pas. Et je ne sais pas si vous vous rappelez dans Dire et vouloir dire, j'avais lu un petit passage où il expliquait que bah, même le philosophe traditionnel, en fait, il utilisait le langage ordinaire comme le boulanger, quoi. Sinon, bah, il n'arriverait pas à acheter son pain et à discuter avec avec le boulanger. Donc il y a ce côté extraordinaire qui le fascine dans le langage ordinaire, qui est un moyen de compréhension entre les gens extraordinaires. Et en même temps, il dit, bah, et ça, tout le monde peut le sentir, peut le voir, c'est que dans pas mal de situations, ça échoue. C'est-à-dire qu'on voudrait dire quelque chose, mais on n'arrive pas à dire ce que l'on voudrait dire. Et on le dit mal et on se comprend mal. Et il peut y avoir des manipulations aussi. C'est quelqu'un qui est très militant au niveau politique aussi. Donc, ben on en a bien vu aussi, c'est peut-être un peu ce que Platon pourrait dire aussi quand il revient ici, parmi nous, c'est que. Ben le langage politique actuel, en fait, c'est le langage du mensonge, de la prétention, mais c'est pas, on dit pas, en fait, on n'a pas le souci de vouloir dire, en fait, de parler de manière exacte, quoi. Voilà, donc cette question du scepticisme, il la développe beaucoup. Et du coup, pour lui, il part pas du. Pour lui, son interrogation, c'est pas que le réel, on n'arriverait pas à le connaître, quoi. Mais c'est plutôt comment, en fait, on arrive à communiquer, à se comprendre, à parler. Alors, la réalité, d'ailleurs, pour le langage ordinaire, c'est pas. C'est un peu particulier parce il se base sur l'ordinaire, le langage ordinaire, justement. Et donc, le rapport, en fait, de la philosophie du langage ordinaire par rapport par rapport au réel, ce n'est pas de croire que le monde ordinaire existe ou n'existe pas, mais c'est fonder sa pensée sur le langage ordinaire. Et pour illustrer à la fin de mon exposé, pour éclaircir un petit peu plus aussi cette histoire du langage ordinaire, je peux reprendre très rapidement l'exemple que j'avais donné la dernière fois, où on s'était interrogé sur qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on demande est-ce que vous avez fait quelque chose volontairement? J'avais pris l'exemple, est-ce que vous êtes venu, si je vous dis, est-ce que vous êtes venu, si je te dis par exemple, Pierrette, est-ce que tu es venu à cette présentation des livres de philosophie volontairement?
Ah oui,
Et ben
volontairement.
voilà. Mais ça, je sous-entends, tu peux sentir normalement dans mon interrogation que ben, je trouve d'une certaine manière un peu inhabituel ou bizarre, voilà, que tu sois venu. Et donc, il en déduit, par exemple, la philosophie du langage ordinaire déduit de ces situations, en fait, qu'on ne se pose la question de l'acte volontaire que lorsqu'on sous-entend qu'il y a quelque chose, un peu de doute, de bizarre. Alors que le philosophe traditionnel, lui, il va systématiser ça, quoi. Il va dire la liberté, le libre arbitre, voilà. Donc, moi, je trouve ça, pour finir, absolument passionnant par rapport au langage, qui je m'intéresse beaucoup au langage, notamment par rapport à, on a parlé de Rimbaud, à la poésie, donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et je trouve qu'il a une vision, une explication de ce qu'est le langage qui est très intéressante. Et notamment à l'heure actuelle où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, où on parle à ce qu'on appelle des assistants personnels, et on leur dit quelle est la météo aujourd'hui à Caen, et l'assistant il nous répond aujourd'hui il fait tel truc, et on a la prétention et l'illusion que en fait on va arriver dans quelques années à avoir un dialogue, en fait, comme avec un être humain. Or, en fait, l'assistant personnel, même s'il apprend le langage, il apprend pas le langage comme nous. Quand il apprend le langage, il apprend pas la vie en même temps. Et donc, c'est pas du tout de même nature. Voilà.